Il est 7h48, Léa Salamé, votre invité ce matin, est écrivain fraîchement primé.
Bonjour Jean-Paul Dubois.
Bonjour.
Et bravo, vous êtes donc pris Goncourt depuis quelques heures maintenant. Comment vous vous sentez ?
Vivant. Je me sens à peu près dans le même état que j'étais hier. Je vois des gens heureux autour de moi, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et demain, je vais reprendre la même vie que j'ai laissée avant de partir. Donc rien n'aura changé dans la réalité de ma vie, si ce n'est du bonheur qui s'est dispersé comme ça. Je trouve ça très bien.
Ce matin, en vous réveillant, vous vous êtes dit peut-être cette fois c'est la bonne ?
Non. Moi, je suis un naturel très pessimiste. C'est-à-dire, si un concours avec 4 participants, je finis toujours 4e dans ma tête. Ce qui fait que les fois où j'arrive premier, je suis toujours extrêmement surpris. Et je dois avoir l'air stupide et ébahi, un peu, vous savez, comme les cerfs pris dans le pinceau des phares qui regardent ça. Oh, tiens, voilà.
D'ailleurs, vous avez eu une des réactions les plus amusantes de tous les prix Goncourt, puisque vous avez dit « tout arrive, c'est adorable ». C'est marrant de dire « c'est adorable ».
Ben non, je pense que c'est un mot qui correspond à ces moments-là. C'est un truc... Moi, je suis arrivé au déjeuner, j'ai trouvé des gens avec qui j'ai commencé à blaguer, et on a passé un repas extrêmement agréable, à rigoler ou à se raconter des choses, mais c'était pas du tout guindé. Moi, je m'attendais à un truc vachement strict. Pas du tout, c'était quelque chose avec des gens qui...
Vous êtes arrivé en sweatshirt comme ça, ouvert, ouais. En t-shirt.
Ça va pas.
Si, justement, c'est très...
Ben, je suis habillé comme ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que... Mais le plus sincèrement du monde, c'est qu'entre hier et aujourd'hui et demain, il n'y aura pas de différence. Je serai habillé de la même façon. Enfin, j'aurais changé de... Mais c'est pareil.
Alors, il y a peut-être une différence. Il y a quelques jours, on vous a posé la question sur la possibilité de remporter le concours et vous avez répondu « si je l'obtenais, ça représenterait des années de liberté ».
Mais
qu'est-ce que ça veut dire ?
L'essentiel pour moi, c'est le temps et la liberté. C'est-à-dire, moi, j'achète mon temps. Voilà. Je m'achète le pouvoir de faire ce que je veux, quand je veux, ne pas avoir de patron, ne jamais avoir d'autorité sur quelconque, ne jamais en supporter. C'est ça ce que ça change.
Vous dites la liberté, c'est se lever quand on n'a plus sommeil.
Ça a été toute ma vie. Ça a été le credo de ma vie. Dès l'instant où je suis sorti de l'école, c'est fini. Tu ne te lèves plus au réveil. Tu te lèveras quand tu auras plus sommeil. J'ai organisé tout mon travail professionnel quand j'étais au Nouvel Observateur. Ça a été une des discussions que j'avais eues même avec Claude Perdriel qui voulait que j'habite à Paris. Alors, je dis jamais. Moi, je me lève quand j'ai plus sommeil. Je fais le boulot, mais voilà.
C'est l'immense luxe que vous avez.
Oui, mais c'est une construction. Parce que ça, c'est pas de l'argent, c'est même de la perte d'argent très souvent. Mais c'est un choix entre dire, voilà, moi ce que je veux, c'est du temps. Je vais m'organiser pour le gagner, à ma façon. Je vais trouver le métier le moins chronophage. Je vais essayer d'avoir une vie dont je serai le propriétaire et non pas le locataire ou l'actionnaire. Moi, je suis le patron de ma vie. C'est le seul luxe que j'ai.
Le titre du livre, c'est « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Ça raconte les différentes manières d'être au monde.
Ouais.
Quelle est la vôtre ?
J'ai commencé par tâtonner. J'ai ensuite essayé de trouver un chemin qui soit... où j'ai pas trop peur, où quelque chose serait bienveillant. Et je suis allé toujours vers quelque chose qui était compréhensible, où je savais qu'il n'y a pas de combat inutile, que le pouvoir n'est pas un truc, ne sert absolument à rien si ce n'est à perdre son temps. Et essayer d'aller vers quelque chose de doux, quoi. Moi, j'ai une obsession de la douceur. J'adore me battre s'il le faut, mais je déteste les conflits.
Et d'ailleurs, votre héros, Paul Hansen, c'est un homme doux, c'est un homme bienveillant, c'est un homme qui va tout perdre. Son statut social, le contrôle de sa vie, sa femme, ses parents, sa chienne. C'est étonnant, non, de gagner le Goncourt, le prix le plus prestigieux, sur un livre qui parle d'un homme qui a raté.
Ben moi, je ne pense pas qu'il a raté. Ce livre ne me paraît pas du tout être le livre d'un perdant. C'est un type qui découvre à la fin de sa vie qu'il a eu une vie assez formidable, assez chouette, dans son domaine, et qu'il n'est que le fils de son père. Voilà. Et je trouve qu'un type qui a l'intelligence de comprendre ça, qu'il a fait ce qu'il avait à faire dans sa vie, mais que voilà, il revient, il découvre qu'il est le fils de son père.
Mais pour ça, pour arriver à cette conclusion, d'une certaine manière, de lucidité et une conclusion de vérité, il doit perdre les choses.
Ben oui, mais on perd tous. Vous perdez des gens que vous aimez au fil d'une vie, vous perdez... Mais tout n'est que perte, donc il faut accepter la perte comme un élément de la progression et de la vie. Et le terme de la vie, justement, c'est de se dire « putain, j'aurais pas fait autre chose ». La grande terreur des gens qui sont dans ce livre-là, c'est de se dire, au moment de la mort, d'avoir la terreur, la frayeur d'avoir tout loupé, quoi. d'avoir travaillé pour se payer une Maserati. C'est l'horreur, ça.
Mais justement, c'est aussi l'histoire d'un monde qui disparaît, qui est remplacé par une société inhumaine, injuste, liberticide, obsédé par la rentabilité. Il y a un personnage dans le livre qui est un cost killer, c'est-à-dire un tueur de coûts. C'est-à-dire cet homme qu'on appelle dans les entreprises pour venir réduire les coûts. Vous dites c'est un con éduqué par les algorithmes. Vous dites qu'il incarne le nouveau monde. Il vous angoisse, ce nouveau monde?
Si je vous racontais ce qui m'est arrivé récemment avec les algorithmes, vous comprendrez qu'il me fait aussi énormément rigoler. La société, notamment bancaire, est régie par des systèmes auquel on donne une intelligence qui est effrayante. C'est d'une stupidité, au point qu'on en est un jour arrivé à me dire « Votre achat a été refusé parce que la banque n'a pas l'habitude de ce genre d'achat. » Et je dis, c'est un algorithme.
C'est quoi l'achat ?
Je voulais acheter un ordinateur à mon petit-fils. Bon, il y a eu des achats refusés. C'est un achat de 1000 euros. Un anti-malware a suspecté je ne sais quoi. Il a fait son analyse. Il a décrété, non, ce mec-là, il n'est pas fiable. On ne lui file pas son achat. Et donc, c'est un détail. Mais quand vous arrivez à questionner et que vous obtenez les réponses d'une banque, vous apercevez que les algorithmes est une machine infernale. Alors, tant qu'on leur confie la gestion de patrimoine de particuliers, c'est pas très grave. Mais j'imagine j'espère que la gestion financières des grandes compagnies du monde ne sont pas confiées à des mécaniques comme ça. Je pense qu'actuellement, on est entre les mains de tyrans. De vrais tyrans. Trump, Bolsonaro, tous ces mecs-là. Mais le problème, c'est qu'on les a élus. On les a élus et on élit nos propres tyrans, ce qui est déjà une curiosité. Ensuite...
D'ailleurs, vous dites que la démocratie ne sert plus à grand-chose.
Elle sert à offrir une voie royale à des types qui sont des fous furieux.
Vous parlez de Trump, vous avez beaucoup écrit sur les États-Unis, notamment quand vous étiez journaliste et grand reporter au Nouvel Observateur, vous connaissez bien l'Amérique. Vous écriviez en 96, il y a 23 ans, « L'Amérique m'inquiète ». Vous le pensez toujours encore plus aujourd'hui ?
Ouais, parce que j'y suis, à partir du moment d'un certain moment, j'y suis plus revenu. J'ai plus voulu revenir dans ce pays. Moi, je ne voyais qu'une Amérique qui était quand même assez marginale, avec des gens à peu près, des personnages de romans, on va dire, voilà. Qui me permettait de raconter des nouvelles vraies, et dont j'ai croisé tous les gens qui aujourd'hui sont au pouvoir. C'est ça qui m'inquiète encore plus, c'est que les gens qui à l'époque étaient des types qui étaient totalement marginaux, sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Donc oui, c'est vraiment, vraiment inquiétant quand vous pensez que le vice-président est un créationniste. Moi, c'est un truc, je me dis, mais comment c'est possible, quoi ?
Jean-Paul Dubois, dans son dernier livre, White, Bret Easton Ellis, dit qu'il n'a plus envie d'écrire des romans parce que la jeune génération, les millennials, qui sont obsédés par les réseaux sociaux, n'ont plus le temps de lire, n'ont plus le goût de l'effort. Est-ce que vous pensez, comme lui, que le roman, au fond, appartient à l'ancien monde et qu'il est condamné à terme ?
Non, ça, je pense que les réseaux sociaux et la narration fictive n'ont rien à voir. Si vous me diriez que le roman est condamné par les séries, le cinéma et les multiples supports, ça je veux bien le croire. Ce qui peut sauver le livre, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'un type soit assez malin, soit assez travailleur ou amoureux du geste qu'il fait pour vous raconter une histoire, mais avec justement la douceur des mots, quoi. J'avais fait une nouvelle qui s'appelait « La douceur des intestins ». Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours mis dans la tête que les intestins étaient un truc vachement doux. Et c'est ça, c'est arriver à faire toucher la douceur d'une écriture, d'un style, qu'il est beaucoup plus difficile de faire passer dans une nouvelle et encore moins dans les réseaux sociaux.
Vous ne relisez jamais vos livres, vous dites que certains vous font même honte, mais vous vous souvenez d'une seule phrase, qui est la dernière phrase de votre tout premier livre.
Ouais.
« Je ne vaux pas grand-chose et je ne crois en rien, et pourtant... »
Tous les matins, je me lève.
Tous les matins, je me lève.
Je me lève. C'est un truc de génie, ça. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu un truc de génie. j'ai résumé la condition humaine. Si vous y pensez, je suis un type parmi des milliers d'autres, perdu. J'adore la vie animale. Et je ne me vois pas différent des animaux. J'ai une proximité de destin avec eux, soumis à la même imminence, aux mêmes inquiétudes, sauf que moi j'arrive un peu à la nommer, eux pas. Et je trouve que je fais partie de ce monde multiple. Et tout est là pour m'effrayer. Et pourtant je me lève, je continue le lendemain matin à aller jouer à cette vie qui est un truc qui est formidable, quoi. Moi j'ai jamais trouvé un jeu plus amusant que ça.
Que la vie.
Que la vie, bien sûr.
Voilà, une partie de la condition humaine donc de Jean-Paul Dubois, ça s'appelle « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions de l'Olivier, prix Goncourt 2019. Merci beaucoup et
merci
bravo.
À vous.